Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion, prise de son assurée par Emmanuel Morse-Duncan, réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi, ce soir, Corinne Rondeau, Yasmine Youssi et Stéphane Coréard pour parler ensemble de Luigi Ghiri, carte et territoire, photographie des années 1970, c'est le titre un peu à rallonge de l'exposition du jeu de paume, art brut japonais 2, oui, il y a eu un 1 il y a quelques années. C'est à la Halle Saint-Pierre, à Paris, The Color Work de Viviane Maier, aux douches La Galerie. Un coup de cœur de Yasmine Youssi pour 24 heures dans la vie d'une femme au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour aller voir La Chute de l'Empire américain de Denis Arcan, sorti, ressorti aujourd'hui sur les écrans. Luigi Ghiri est né en 1943, mort en 1992. Le photographe italien n'aura donc même pas vécu un demi-siècle, mais il laisse derrière lui une œuvre, on va en parler, assez passionnante à mes yeux. Une œuvre que le jeu de paume met à l'honneur avec ce qui est la première rétrospective pour Ghiri hors d'Italie, rétrospective partielle, puisqu'elle se concentre sur les années 70. C'est un commissariat de James Lingwood. Ghiri a exercé comme géomètre au moment de partir de l'obtention de son diplôme en 62 jusqu'en 74. Il avait commencé à pratiquer la photo chaque week-end dès le début des années 70, beaucoup dans la ville de Modène. Il décide en 74 donc d'ouvrir un atelier d'art graphique. Il fondera aussi, ensuite une maison d'édition en 77 où il publiera l'année suivante son livre Kodachrome. Qu'est-ce qui singularise le travail de Ghiri? Nous allons en parler. Nous sommes zen, hein, selon la musique choisie par Alexandre Fougeron. En tout cas, c'était son but, a priori. On a quelques doutes. Bon, Corinne Rondeau, Luigi Ghiri et vous. Qu'est-ce qu'on voit donc quand on entre dans ce grand bâtiment du jeu de paume?
Des photographies de petit format, plutôt, disons-le. C'est une photographie assez discrète en termes de format, mais aussi en termes de représentation. Et on voit assez rapidement des choses qui sont des cartes postales sur des socles, enfin accrochées
sur un présentoir.
Une structure, un présentoir métallique. Donc déjà, cette idée de la carte postale qui relève d'une image assez banale, on va dire. Et puis, on voit assez rapidement des décrochages dans les images. C'est par exemple un couple, et puis au-dessus, on a un paysage. Et puis, on a cette bipartition assez fréquemment reprise, puisqu'en fait, c'est aussi une manière de repenser le cadre dans le cadre. C'est aussi une manière de penser, je veux dire, un territoire d'image avec un autre territoire d'image. Hein, on peut le dire comme ça. C'est la nature et la culture. Et donc, pour un géographe, je trouve ça assez intéressant, puisque c'est une manière de poser la question de la structuration de l'image à travers même de son cadre. Et on voit bien qu'il y a quelque chose chez Guéry qui relève de la d'une manière de penser la comment la perception d'une image par rapport à, dans un rapport d'image d'une image par rapport à une autre, la manière dont il prélève quelque chose et un fragment du réel est une manière aussi de remettre en question la perception même du monde, on va dire. Donc je trouve qu'il y a quelque chose du géographe aussi qui se joue là, puisque la manière dont il crée un intervalle, par exemple au tout début de l'exposition, avec ces deux types d'images qui sont dans une unité représentative, renvoie en fait à chercher à créer un intervalle, mais aussi une distanciation entre un plan et un autre plan. La grande force ensuite qu'il y a à l'intérieur, alors là, la ligne est très marquée, on va dire, et puis ensuite, on a de moins en moins cette ligne qui est marquée, mais elle joue toujours entre de l'artifice et du naturel, encore une fois, un paysage avec un mur qui est peint derrière, et c'est vrai que très souvent, moi, la réflexion que je me suis faite, souvent je me dis, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que il y a aussi des manières de capturer un certain nombre de motifs. Par exemple, à Rimini, où il va photographier des dioramas, mais il va aussi photographier des monuments qui sont en miniature. Et donc, c'est la miniaturisation du monde à l'intérieur d'une miniaturisation d'un cadre. Et en même temps, il a une très grande force de représentation photographique parce que il est très symétrique, il est très centré. Et donc, il y a un très grand équilibre des photographies. Elles tiennent avec beaucoup de force. En même temps, il n'y a pas d'effet spectaculaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de volonté de dire « Regardez, je fais une photo ». Et donc, on voit bien qu'il y a cet enjeu entre la photographie amateur et puis une autre manière d'être plus minimale ou conceptuelle, on va dire. Donc, il y a cette bipolarité chez lui qui est plus intéressante qu'on ne peut l'imaginer au premier abord.
Yasmine aussi, au premier abord, Luigi Guéry.
Mais écoutez, moi, j'ai peur demain de me faire égorger par mes collègues, mais peut-être vous-même allez m'égorger après ce que je vais dire.
Certes non.
On ne sait jamais, je me suis ennuyée. Mais vraiment, je me suis ennuyée, mais profondément.
Je pourrais éventuellement vous
plaindre,
Yasmine, mais rien d'autre. Alors pourquoi cet ennui?
Je me suis ennuyée parce que j'ai trouvé que Luigi Guéry fait de la photo en couleur. Il est l'un des premiers Européens à faire de la photo en couleur à la fin des années 60, début des années 70. À un moment où les Américains en font aussi, que j'ai pas trouvé qu'elle était l'intérêt de la couleur plus que ça dans ces images. Si vous voyez le travail de Viviane Meyer, on va en parler tout à l'heure, où il y a une vraie recherche par rapport à la couleur que là, j'ai pas trouvé. Les sujets même de ces photos, en tout cas accrochés comme ça, les sujets même de ces photos pour certaines séries ne m'ont pas paru si intéressant que ça. Dans l'histoire de la photo, le travail par exemple sur l'Italie miniature, sur des parcs à thème comme ça, d'autres en ont fait en couleur un peu plus tard, je pense à Larston Bjork. Je trouve que ça a une force et que ça dégage quelque chose de beaucoup plus puissant. L'accrochage du jeu de paume n'arrange rien une fois de plus. C'est-à-dire que vous rentrez dans la salle, vous voyez un texte sur la gauche, vous le prenez et après vous arrivez à une autre série, mais le texte est au bout là-bas, donc vous savez plus très bien ce que vous regardez. À un moment dans la même salle, il y a les photos du début qui sont mises à la fin. Sans parler des photos qui sont accrochées au mur et puis juste au-dessous vous avez une vitrine avec d'autres images où vous voyez plus rien. Moi je me suis retrouvée face à cette je suis passée complètement à côté, et ce qui m'a perturbée, c'est que ensuite, donc j'en ai parlé avec mon collègue Luc Desbenoît qui écrit sur la photo, qui m'a ramené un livre de Luigi Guéry, et voir les photos comme ça dans un livre, tout d'un coup je les redécouvrais, c'était plus du tout ce que j'avais vu, là il y avait plus
d'ennui. Et là ça vous a intéressé ?
Mais oui, là ça m'a intéressé. Alors est-ce que c'est parce que c'est de l'ordre de C'est vraiment, comme le disait Corinne, c'est quelque chose de très discret, de tout petit, de est-ce que c'est tellement intime que finalement, pour moi, ça s'est noyé sur ces murs et cette scénographie et cet accrochage que moi, je n'ai pas apprécié, enfin, que j'ai trouvé raté. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et j'avais le sentiment, vous voyez, tous les ans, enfin, pas tous les ans, il y a eu une époque du temps de François Hébel, mais même après, on allait à Arles et on voyait les collections de photos d'Eric Kessel, ce collectionneur hollandais qui venait présenter des photos qu'il avait trouvé au marché Opus, de la photo vernaculaire, des choses comme ça, et vraiment de la photo vernaculaire, et j'avais l'impression de voir la même chose.
Bon.
Vous ne m'égorgez pas.
Non, je vous plains. Non, mais c'est-à-dire que quand on prend plaisir à une œuvre, quelle qu'elle soit, on a envie que ce plaisir soit partagé.
Mais là, je ne l'ai vraiment pas partagé.
C'est pas été votre cas. Stéphane Coréard me fixe, mais il me fixe pendant une heure, hein, que dure l'émission. J'ai toujours un peu peur, mais qu'est-ce qu'il va nous dire Stéphane Coréard sur Luigi Ghiri au jeu de paume?
Ben, je comprends le point de vue de Yasmine, dans le sens où moi c'est une œuvre que vraiment que j'adore, que je mets très très haut. Donc j'attendais cette exposition avec une énorme impatience. Les œuvres sont à la hauteur de ce qu'on connaît. Évidemment, c'est absolument bon, sublime. Ça se met en place très très tôt. C'est-à-dire que les photographies peut-être les moins connues de l'exposition, c'est les toutes premières. Et dès le départ, il trouve absolument son style. Donc effectivement, il photographie en couleur. C'est pas qu'il recherche des effets particuliers, c'est qu'il dit le monde est en couleur. Voilà. Ben donc oui. Il fait un constat. Il photographie le monde en couleur,
c'est pas l'enjolivé avec le noir et blanc.
Absolument. De toute façon, c'est pas vraiment. Enfin, le mensonge pour lui est dans le monde. En fait, il est pas. Il doit pas être donc évidemment dans la photo. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que les partis pris curatoriaux de l'exposition, à mon avis, ne servent pas la découverte de ce travail. Ils sont extrêmement pointus. Bon, d'abord, ça se présente comme une rétrospective. Hein, c'est écrit y compris dans le catalogue. Alors qu'effectivement, il y a que 9 ans de travail. Alors pourtant, c'est une œuvre qui n'en compte peut-être qu'une vingtaine. Ouais. Donc il y a quand même que la moitié. J'en ai parlé avec le commissaire qui trouve que la deuxième partie de l'œuvre de Ghiri est moins conceptuelle, moins radicale, pour lui moins intéressante. À mon avis, c'est le contraire. Et ce aurait été très intéressant, au contraire, de la mettre en regard. Et puis surtout, il y a ce découpage en 14 séries qui reprend en fait la typologie que Luigi Ghiri avait imaginée pour une exposition de 79 à Parme, mais qui là, je trouve, est beaucoup trop atomise en fait le regard. Surtout que la série chez Ghiri n'est jamais fermée, à part la série Infinito, où il a photographié pendant 365 jours le ciel. Les séries ne sont jamais closes et elles sont poreuses. Elles sont poreuses. Moi, ce que je trouve que Ghiri apporte de totalement neuf dans la photo à ce moment-là, au début des années 70, c'est que là où Cartier-Bresson et toute la photographie finalement du XXe siècle, une grande partie en tout cas, était celle de l'instant décisif. Chez lui, c'est pas ça, c'est l'endroit décisif. Voilà, c'est l'endroit, c'est le cadre qui va découper. Il révèle une réalité qui est déjà là, ce qui est très fort conceptuellement dans sa photographie, puisque c'est une expérience du monde qui n'est pas dépendante de l'instant. C'est un état, un état du monde tel qu'il est. Un télescopage de signes, hein, c'est ce que Luigi Ghiri lui-même dit. Il dit la photographie montre toujours ce que l'on croit déjà savoir. Il photographie un monde où il n'y a plus de réalité. Finalement, la réalité a été recouverte par le simulacre. Voilà. Donc c'est le photographe post-debordien par excellence. On pense d'ailleurs dans une de ses plus belles séries qui est montrée au centre de l'exposition avec un ensemble qui appartient à la Bibliothèque nationale qui est Atlante, qui est l'Atlas, qui sont des photographies extrêmement radicales où il photographie des fragments d'Atlas. C'est un voyage dans un livre, ce qui d'ailleurs souligne aussi la place du livre dans l'œuvre de Ghiri qui malheureusement n'est pas très bien rendu, je trouve, dans l'exposition. Et évidemment, là, on pense, pour moi, dans cette série, donc je pense à Debord et sa prophétie sur l'image qui recouvre le réel, qui le remplace, mais on pense évidemment aussi à la métaphysique de Borges, c'est-à-dire de la cartographie qui doit prendre l'échelle du monde si on veut en rendre compte.
Bon, bah, vous en parlez si brillamment que je ne peux qu'acquiescer au propos alors de la première et du dernier à avoir parlé ici, parce que moi, ce qui me passionne, en effet, c'est la façon qu'il nous donne, cette façon qu'il a de nous donner à voir le monde dans ce qu'on ne regarde pas, dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qu'on ne voit plus. Bon, alors, ce ne sont certes pas aujourd'hui des choses nouvelles, mais il le fait à une époque où ils sont quand même très peu nombreux à le faire. Et oui, le choix de la couleur, vous avez répondu aussi. Je trouve qu'effectivement, le catalogue de l'exposition, pour le coup, offre un autre type de respiration aux photographies. l'accrochage de petits formats, c'est jamais, surtout dans des grands lieux, c'est jamais très valorisant pour les images. Mais pour peu, effectivement, qu'on prenne le temps, on peut quand même avoir ce contact très direct. Corinne Rondeau, encore quelques mots sur
Louis Guéret. Oui, puis les tirages, ils ont une tendance au rouge, hein, ouais. Alors que dans les livres, tous les livres, sur l'Ektachrome notamment, et même dans le catalogue qu'il a, les tirages sont plus bleus ou oui. Vont vers le vert, ils sont de meilleure qualité. Et c'est vrai qu'un petit format ne supporte pas l'espace qu'il y a au jeu de pommes. Et donc, quelqu'un a prononcé le mot d'atomisation, et c'est vrai que c'est autrement, dans un autre sens, mais c'est vrai que dans la deuxième partie, à l'étage, je suis plus du tout rentrée à l'intérieur de ça, parce que je trouve que à la fois ça se ressemble, mais en fait il y a une diversité extrêmement grande. Et moi je trouve qu'il a, c'est pas dans les années 70 où il révèle quelque chose, c'est encore aujourd'hui. Parce que faire ce type de travail est tout à fait remarquable dans la mesure où
que d'autres ont pris cette même démarche depuis.
Oui, trouve qu'il le fait avec une sorte d'accord. de. Et effectivement, Stéphane a tout à fait raison. C'est l'endroit. Il s'arrête
l'endroit
décisif. Et il est dans la symétrie. Par exemple, il y a un arbre, il y a un poteau, il est plein centre. Il va capturer des cadres dans le paysage. Et on voit bien qu'il objective le paysage dans l'image pour faire du monde le monde d'une image. En disant, finalement, le monde est une image. Et le monde réel, finalement, il est à l'intérieur de cette bipartition, à l'intérieur de ce trouble et à l'intérieur de justement cette frontière qui joue en fait un peu de l'utopie. Moi je trouve que c'est vraiment un grand artiste utopiste. À la fois c'est chercher la clôture et en même temps chercher l'infini. Moi je trouve que si je le définirais son œuvre, ça serait trouver l'infini dans un mouchoir de poche. Parce que même sa série Infinito, ses ciels, c'est à la fois il y a plus de lignes et on va voir d'autres images où il va faire du décadrage, où il va mettre juste azzurro à la bordure basse de la photographie. Il prend des petits fragments comme ça et donc en fait il joue sans arrêt avec la limite, mais c'est 5 siècles quasiment de la définition de l'horizon, du 13e au 18e siècle. C'est ce qui sépare la terre du ciel, puis ensuite c'est la délimitation, puis c'est l'infini avec le romantisme. Et il y a, sur une dizaine d'années, cette espèce de manière de voir, de chercher la limite. Et en termes de géomètre, enfin, il dit d'ailleurs, le géomètre, c'est celui comme le photographe qui mesure les distances ou l'espace. Et il y a de l'espace, mais cet espace-là, il n'est pas une dénonciation, il n'est pas vous appelez Debord, mais en fait, moi, je trouve qu'il n'est pas du tout debordien. Il a une manière de faire qui est une manière de nous ramener quelque chose de cette dimension utopiste qui une manière de dire où se trouve la limite et à quel moment je la fais disparaître. Parce que Utopia, c'est à la fois une clôture et en même temps, c'est la recherche d'un infini qui ne doit pas être... Enfin, la condition du bonheur et de l'infini du bonheur, c'est quand même la clôture. Et donc, il a ce mouvement et en même temps, il n'est pas en train de nous dire le monde est merveilleux ou quoi, c'est pas ça que je veux dire. Mais il a une manière de nous dire, regarder le monde, c'est le regarder par l'image. Et c'est ça qui est absolument formidable et qui fait que, indépendamment de l'accrochage, l'œuvre tient de manière remarquable.
Yasmine aussi.
Je vais retourner au livre.
Bon. Stéphane Correa, réponse sur Debord peut-être.
Oui, absolument. Je crois que vous avez raison, Corinne. Il est debordien dans le constat. Et l'exposition, justement, à mon avis, surjoue ça, puisqu'elle se termine avec les parcs d'attractions et le monde en miniature, comme dans une espèce d'impasse. Alors que Guiri, justement, ce qui est intéressant, n'est absolument jamais dans l'impasse. Et c'est l'art qui. Et ça, c'est très intéressant. Dans le catalogue, il y a un chapitre sur sa relation avec les artistes de Modène, au premier rang desquels Claudio Parmigiani. Là, on apprend beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je regrette que les photographies des années 80 ne soient pas là, parce que les deux grandes séries des années 80, comme par hasard, c'est une consacrée aux architectures d'Aldo Rossi et l'autre consacrée à l'atelier de Giorgio Morandi. Et c'est ça la porte de sortie que Debord n'a pas trouvée et que Luigi Guéret, lui, a trouvée dans l'art.
Bon, on va demander Luigi Guéret 2, hein, comme on va parler d'art brut japonais 2, là, Luigi Guéret 2, les années 80 qu'on attend pour l'instant. Découvrez, redécouvrez, émerveillez-vous, ennuyez-vous ou pas. Luigi Guéret, on vous conseille très fortement d'aller voir cette exposition au Jeu de Paume. Vous avez pour ce faire jusqu'au 2 juin un catalogue, donc sous la direction de James Lynn Good, a été coédité avec le musée de la Reine Sofia à Madrid, avec le musée Volkwang Dessen. Et le Jeu de Paume, évidemment, à Paris. Je suis arrivé quand même. À suivre dans la dispute Art Brut Japonais 2, Viviane Maier 2, et le xème coup de cœur de Yasmine Youssi.
France Culture, la dispute, Arne Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute donc consacrée aux arts plastiques avec, depuis le temps que je le dis, Arbre japonais 2. Alors, on ne peut pas faire plus simple comme titre. Stalal Saint-Pierre à Paris, le musée d'art brut et d'art singulier qui poursuit inlassablement depuis bientôt un quart de siècle cette mission qu'il s'est assignée, belle mission, ouvrir notre regard sur un art différent, longtemps tenu à la marge. Alors c'est plus le cas ces dernières années, mais la Halle Saint-Pierre n'a pas attendu l'effet, on va dire, de mode. C'est pas péjoratif quand je dis ça. 8 ans après un premier volet art brut japonais, qui ne s'appelait pas un donc à l'époque, mais qui a connu un très grand succès. On peut donc y voir en ce moment, à la Halle Saint-Pierre, les œuvres d'une cinquantaine de créateurs japonais. Yasmine Youssi va nous entraîner à sa suite dans la Halle Saint-Pierre. Est-ce que vous y êtes ennuyée, Yasmine? Ah!
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, c'est un 2, mais pour moi, c'est un 1.
D'accord.
C'est une véritable découverte, parce qu'il y a 8 ans, je ne savais pas.
Vous n'étiez pas majeur, donc
voilà,
vous n'exerciez pas encore ce beau métier de critique.
Donc je n'avais pas vu cette exposition et j'ai été totalement surprise parce que j'ai découvert. C'est vrai que l'art brut, on en voit de plus en plus aujourd'hui. La Maison Rouge qui a fermé ses portes nous a donné à voir beaucoup de choses. Enfin, on en voit partout, le LAM à Villeneuve-d'Ascq.
La galerie Christian Berst.
Christian Berst. Également, c'est vrai que ce qui m'a intéressé dans celle-là, c'est les différentes techniques en fait qui étaient présentées. On voit pas autant de céramique d'habitude, et là c'est effectivement lié aux céramiques japonaises, quoi, à la culture japonaise. Donc ce que j'ai trouvé aussi très bien, c'est que la plupart des artistes qui étaient présentés sont des artistes très jeunes. Alors, pas tout m'a intéressé, mais il y a vraiment quelque chose qui se dessine comparé aux autres expositions d'art brut que j'ai vues. On voit l'influence du, comment ça s'appelle au Japon, du folklore japonais avec ces monstres, les yokai, ces esprits souvent malfaisants d'ailleurs, ces démons, des créatures surnaturelles qui sont dans tout le folklore et qui là, mais vraiment habitent. L'exposition qui peuple l'exposition et attrape les artistes, c'est pratiquement que ça. Voilà, ça m'a beaucoup intéressé. Le côté très très japonais aussi de c'est pas toujours le cas dans l'art brut, et là c'est vraiment ce côté très très japonais avec des origamis en feuilles de d'arbres, enfin de végétaux, qui le fait de construire à chaque fois ou d'imaginer des bestiaires. Ça part dans tous les sens. Voilà, pour moi c'est ça a été vraiment une découverte. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, pas tout m'a parlé. Il y en a qui m'ont plus parlé que d'autres. Takayuki Ayama, par exemple, avec ses dinosaures, lui, fait de la gravure sur bois qui colorie ensuite, qui fait des dinosaures. Là encore, on est dans le bestiaire. Il y en a un qui s'appelle Yasuhiro. Désolée pour les prononciations, Kobayashi, qui est né en 83, qui dessine des bouts de ville, en fait, c'est toute une série comme ça de feuilles, avec des bouts de ville, d'abord sur un tout petit coin de la feuille, des villes très verticales, des villes très... et puis petit à petit, ça envahit l'espace. C'est une œuvre qui, comme souvent, enfin, avec tous ces monstres... C'est comme toujours avec l'art brut. Enfin, il y a une angoisse très forte. Voilà. Mais pour moi, c'était vraiment une découverte. Mais je suis sûre que mes camarades ont fait le 1 et le préquel aussi.
Alors, Corinne Rondeau fait signe que non. Stéphane Coréard, le 1, vous y étiez?
Non, j'y étais pas. Mais il y avait des artistes en commun. Et il y a effectivement là beaucoup d'artistes aussi très jeunes, ce que j'ai également apprécié, comme Yasmini aussi.
Mais pour celles et ceux qui se disent quoi, c'est l'art brut, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Comment on appréhende ça?
Alors, on retrouve quand même dans la cinquantaine d'artistes tous les fondamentaux, je dirais, de l'art brut, c'est-à-dire d'une figuration expressionniste, peut-être la première chose à laquelle on pense quand on parle d'art brut, mais il y a aussi de l'abstraction, ce qui est aussi une veine brute, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de répétitions, de remplissage, des obsessions, évidemment quelque chose de répétitif, des écritures, de la calligraphie, des villes grouillantes en général, toujours très remplies, des entrelacs textiles aussi, il y a de la tapisserie, mais aussi des sortes de sculptures textiles qui sont, voilà, mais ou de Judith Scott, et puis des écritures, beaucoup d'écritures, des textes. Alors justement, c'est peut-être un petit bémol dans l'exposition, il n'y a pas de traduction de ces textes, donc ça c'est évidemment pour nous un petit peu inaccessible, et c'est très japonais, disait Yasmine, et c'est vrai, mais c'est peut-être un paradoxe, parce que en général on dit que l'art brut est un art sans culture, et donc c'est un petit peu paradoxal de vouloir faire une scène nationale, et pourtant effectivement
il y a dans le cas du Japon, c'est quand même le cas.
Absolument.
Dans tous les domaines.
C'est très étranger déjà de nous. Quand on va au Japon, on se sent très dépaysé, effectivement. Mais il y a effectivement aussi, sans doute, dans l'artisanat, dans le rapport aux images. Bien sûr, parce que c'est sans culture, mais ça ne veut pas dire que ces gens ne vivent pas comme nous, et comme Luigi Ghiri nous l'a enseigné, au milieu des images, dans un monde qui est un monde d'images. Ce qui m'a intéressé, au-delà donc de ces fondamentaux, je dirais, où on pourrait dire on a la même chose chez nous, c'est qu'il y a des individualités très fortes, j'ai trouvé, qui émergent. Les origamis en feuilles de chêne sont absolument sublimes. Donc, maintenant, cet artiste s'est focalisé sur le chêne. Oui, c'est des tout petits animaux et un bestiaire incroyable avec une très grande diversité. Aucun animal n'est répétitif. Absolument. Là, pour le coup, c'est absolument sublime ce travail.
Le serpent au rhinocéros, quoi.
Et il y a des choses, j'avais jamais vu ça, que ce soit dans l'art brut d'ailleurs ou pas dans l'art brut, parce que vous dites qu'on en voit partout de l'art brut. Bon, ça se discute.
On en voit de plus en plus.
Les gens de l'art contemporain le regardent de plus en plus, mais on en voit, à mon avis, pas assez. Et notamment, on n'en voit pas assez dans des lieux d'art contemporain. Je pense qu'on pourrait aussi peut-être profiter de la disparition de lieux un peu spécialisés comme la Maison Rouge, qu'on a montré beaucoup, pour se poser la question de savoir si l'art brut ne va pas simplement être banalisé, être montré dans la diversité de l'art contemporain et en regard, parce que là il y a plein de choses qu'on voit dans cette exposition et qu'on verrait très très bien avec des artistes de même génération. Il y a notamment, moi j'ai beaucoup aimé un boulanger, Noriyuki Katsura, qui fait des dessins très étonnants avec des compteurs qui sont tous à zéro.
Oui,
et si parfois ils sont au milieu, mais c'est quand même zéro. Oui, mais c'est quand même zéro. Parfois c'est négatif.
Où il y a la patte dans la balance, où elle n'y est pas. C'est zéro ou c'est au milieu. Voilà,
non, parce qu'il y a des compteurs qui vont à gauche vers le négatif et à droite vers le positif. Et là, c'est à zéro, mais au milieu. Et il y a aussi des silhouettes de chevaux et puis des sortes de pictogrammes extrêmement bien dessinés. Vraiment magnifique, répété comme une sorte de clavier sur lequel l'artiste pourrait jouer. Et puis il y a des choses que j'ai trouvé visuellement très très fortes et très innovantes. C'est pour ça que on a vraiment envie de le voir dans l'art contemporain. Il y a Ishiro Oka qui a 52 ans et qui fait des très gros plans sur des fragments de visage. Ça c'est magnifique. Je trouve que c'est une figuration vraiment étonnante dont on n'a pas l'équivalent ni dans l'art brut ni dans l'art non brut, je dirais, dans l'art savant. Et il y a des choses même qui, alors là pour le coup, étendent le domaine de l'art brut, peut-être tel qu'on a pu le voir, y compris pris dans ces lieux. Je pense à Masaki Mori, 52 ans aussi, qui fait des dessins minimalistes sériels inspirés de la musique répétitive. Alors ça, c'est absolument sublime, monochrome comme ça, avec une très très grande délicatesse de traits. Mais il y a aussi Haruka Mori qui a 30 ans et qui peint avec ses pieds parce qu'elle ne peut pas servir de ses bras. On dirait que c'est entre Basquiat et Mariti Smith, une artiste brute. Mais avec une vitalité, une joie des textes, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très plein de vitalité.
Bon. Il y a des fois, on se demande ce qui différencie ces artistes-là des artistes contemporains. Enfin, la frontière, elle est quand même très ténue.
D'autant qu'ils sont contemporains.
Oui.
Ceux qu'on voit, en l'occurrence.
Des artistes contemporains bruts, mais...
Bruts. Mais enfin, bon. Mais non, mais on reviendra peut-être sur cette question. Mais d'abord, un regard de Corinne Rondeau sur cette exposition à la Maison Rouge.
Oui, alors ça, c'est vrai que...
À la Saint-Pierre, plutôt.
Voilà, vous voyez le lapsus.
Camarade.
À la Halle Saint-Pierre. Avec un formidable lieu, vraiment, je le redis.
Oui, non, moi j'ai été assez étonnée par la qualité de certaines œuvres qui étaient sidérantes. Et effectivement, on se demande pourquoi ça serait restreint à un espace uniquement art brut. Parce que C'est assez, oui, c'est d'une très très grande qualité. Plastique, vraiment, si on se contente de regarder que plastiquement les choses, et on oublie d'ailleurs dans le catalogue, ils veulent pas du tout dire les pathologies, etc. C'est très bien, en même temps, c'est un peu cuculapraline, hein, les commentaires. Mais enfin, bon, bref.
Non, mais de pas citer les pathologies.
Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Mais
j'ai pas dit que c'était Martine Luzardi, hein, qui est la commissaire de l'Expo.
Et alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans l'art brut, parce que c'est japonais, parce que la culture orientale, enfin, asiatique, est très différente de la nôtre, ce qui nous permet, en fait, d'avoir un curseur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, quand on est un peu habitué à voir de l'art brut, c'est de se dire, en fait, même les fous, ou même ceux qui ont un handicap, sont confrontés au monde extérieur. Et ce monde extérieur, alors, il est fait aussi de folklore, vous l'avez dit, Yasmine, mais il est fait de toutes choses, de voitures, de camions, il y a aussi d'électroménager, il y a un artiste, Sakai, qui fait des petits réfrigérateurs et des congélateurs, avec, c'est un Toshiba, c'est un machin, il met les marques, etc. Et donc moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est justement l'importance du monde extérieur pour ceux dont on imagine tout de suite qu'en fait, ils sont enfermés dans leur monde intérieur, avec leurs hallucinations, leurs délires et tout. Et non, c'est-à-dire que le délire part toujours du monde extérieur. C'est ça qu'il faut jamais oublier. Sauf que ce qui est formidable, c'est que ces gens sont toujours au travail. C'est-à-dire ils font quelque chose comme Yayoi Kusama, qui est, elle, à la fois du monde psychiatrique et en même temps, elle se vend très bien dans le monde de l'art. C'est-à-dire comment on est capable, avec une hallucination visuelle, de cadrer l'hallucination par l'art. Et c'est ça qui est assez formidable, parce que, effectivement, alors, d'un côté, on perçoit ce monde extérieur, alors à travers effectivement leur culture, le masque de samouraï,
l'histoire avec
le regard,
Hiroshima.
Vous l'avez dit avec l'origami, mais aussi Hiroshima avec Yukio Karaki, qui fait une espèce de dessin, de peinture comme ça, avec un gros œil soleil, qui est l'explosion à Hiroshima, et puis ensuite il a été le témoin, en fait, de l'explosion, donc des corps calcinés, etc. Il est vraiment le témoin, là, d'un coup, on se dit, mais en fait, ça vaut bien autre chose que c'est ce qu'on appelle de l'art brut. Et puis après, effectivement, comme vous l'avez dit, Stéphane, il y a toutes les caractéristiques de l'art brut. La profusion, la contamination des formes à l'intérieur. Et ce qui est absolument formidable, c'est qu'on se dit, mais ces gens n'arrêtent jamais de bosser. À croire que la paresse est un élément culturel. C'est-à-dire que celui qui est névrosé, il est paresseux. Mais ces gens sont tout le temps en train de courir après leur forme, leur écriture, leur idéogramme. L'entrecroisement, il y a un artiste qui fait pareil, il vivait dans le nord de la Chine, il fait des publicités avec des inscriptions russes, etc. Donc c'est tout, et c'est tous les formats et toutes les propositions qui sont faites, ou comme Marie Suzuki par exemple, qui fait des paravents absolument admirables, somptueux, de couleurs. Vous avez tout, et même dans la jointure du paravent, vous avez une ligne d'œil pour un paravent, et l'autre vous avez des lignes de main. Et effectivement, vous retrouvez le détail de l'œil ou de la main dans le agrandi. Et vous avez des éléments de sexualité, vous avez des éléments de menace, vous avez des éléments de petits signes qui se contaminent, qui contaminent le plan. Mais il y en a un, par exemple, qui m'a épaté, c'est Haruze, Ryosuke Haruze, qui fait que du dessin. C'est des gémellités de personnages. Écoutez, à regarder les feuilles, il a un sens du dessin, de le mettre au centre, mais en même temps, il l'équilibre pas. C'est qu'une ligne, hein. Il y a très peu de remplissage et il a une capacité à rendre. Enfin, la page est extrêmement bien organisée. Enfin, ça, c'est assez beau de le. Et voilà. Et puis d'autres qui, par exemple, il y a celui qui fait des chiffres et puis il se sert des chiffres comme ligne de profil pour faire des faces, des figures à l'intérieur. Et donc, c'est comment il fait tenir du corps dans des chiffres. Donc, et tout ça, ça tient vraiment avec beaucoup de. Moi, j'ai trouvé très, très, très bonne qualité tout ce qui a été montré.
Stéphane Correa.
Oui, ce qui est merveilleux dans cette exposition, évidemment, c'est qu'il y a énormément de découvertes. Yasmine l'a dit, des artistes très jeunes. Il y a des artistes de 22 ans comme Akira Yaman qui fait des petits robots. Avec, on voit vraiment cette culture manga robots qui sont vraiment craquants. Et puis à l'autre bout du spectre, on en a parlé effectivement. Là, il y a cette découverte de Yukio Karaki qui est vraiment le Seiya Shoichika japonais, c'est-à-dire qu'il a été le témoin, l'artiste rom qu'on avait vu à la Maison Rouge, il était le témoin de l'explosion effectivement de d'Hiroshima. Il a ce que je ne savais pas, on les appelle des Ibakusha, ces témoins survivants de des explosions nucléaires. Et ce que je ne savais pas, c'est que la censure américaine les a empêchés de parler, de raconter leur histoire jusqu'en 1952. Donc en fait, à l'origine, il y a un mutisme imposé total. Et lui, il a une carrière de commercial, je crois. Et à partir de l'âge de 55 ans, pendant 8 ans, il a peint 11 tableaux, 11 stations comme ça de ce drame nucléaire. Et là, effectivement, ce que je le bémol que j'indiquais tout à l'heure, je le renouvelle puisqu'il y a chacun de ces tableaux normalement est accompagné d'un texte et les textes ne sont pas présents ni dans l'exposition ni dans le catalogue, ce qui est quand même dommage. Ce sera peut-être pour Arbo Japonais 3.
Vous y serez, Yasmine, aussi?
Oui, j'y serai. Mais moi, je voudrais juste... il était apparemment dans la première exposition. Je parlais de céramique. J'ai commencé en parlant de céramique parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Et il y a Sawada, je n'ai pas retenu son prénom, qui fait des œuvres très, très primitives. Alors, c'est marrant parce qu'il y a toujours plein de tentacules.
Ah, c'est horrible.
Mais dans toutes les œuvres...
Ça vous fait peur.
Oui, oui, non, mais j'aime pas du tout. C'est pris à pic. C'est... Ah, mon Dieu, quelle horreur.
Non, c'est pas celles qui sont en noir.
Non, oui, oui, je vois bien.
Mais dans toutes les
on dirait une ruche ou tout ça, ça va sortir de tous les côtés.
S'entendait, là, comment veux-tu? Non,
je ne connais pas du tout cette chanson, Stéphane.
Mais ça va pas. J'espère que personne n'aura entendu.
On attend le 3.
On attend le 3. Voilà, on va s'arrêter là-dessus parce que ça dérape. Art Brut Japonais 2. 3, j'annonçais-moi déjà. Jusqu'au 10 mars, à la Halle Saint-Pierre qui édite le catalogue de cette exposition. Il n'y a pas des choses que, il n'y a pas que des choses que vous n'aimez pas, Yasmine aussi. Il y en a aussi qui font battre votre cœur.
Absolument.
Ce sera Viviane Maillard tout à l'heure. Enfin, j'imagine.
Oui.
Quoique, bon. Votre coup de cœur ce soir pour 24 heures dans la vie d'une femme, présenté jusqu'au 22 septembre, ce qui laisse un certain temps pour se rendre à Saint-Étienne et notamment à son musée d'art moderne et contemporain. Il faut expliquer absolument tout concernant cette œuvre.
Concernant cette exposition. Écoutez, la question des collections, elle se pose de plus en plus et de la manière dont on les présente, c'est un enjeu crucial pour les musées parce que ça leur permet d'abord de montrer la richesse de leurs collections, ça fait leur valeur et puis à un moment où quand même les budgets sont de plus en plus réduits, là ça n'a pas l'air d'être le cas, hein, mais enfin je sais pas, j'ai pas regardé. Finalement on se plonge dans les collections oui c'est vrai. On se plonge dans les collections pour faire des expositions et assurer au public autant d'expositions. Et là, je trouve que Aurélie Volz, la directrice du musée d'art moderne et contemporain de la métropole de Saint-Étienne, je crois que c'est ça exactement.
Le vrai nom.
Je trouve qu'elle a eu une idée géniale pour mettre en lumière la richesse de ses collections. Elle a emprunté à Stefan Zweig le titre d'un de ses livres pour raconter 24 heures dans la vie d'une femme, du réveil au coucher, à travers plus de 250 tableaux, photos, vidéos, je crois qu'il y a très peu de vidéos, des sculptures, des objets design, et puis des installations. Et le fil est vraiment tenu, c'est une très grande exposition, et le fil est tenu de bout en bout. Et il fonctionne à merveille, parce que elle parvient vraiment à construire une narration, et à l'illustrer avec ses œuvres, et à... Alors c'est pas elle brosse pas le portrait d'une femme, elle brosse le portrait de 1000 femmes. Ça commence avec le réveil, avec un tableau notamment de Louis-Édouard Rioux, avec son lever de l'aurore. Il y a un réveil jazz qui n'est pas loin pour marquer, pour montrer aussi la richesse de la collection design. Une paire de chaussons dans une boîte grillagée de Boltanski qui s'appelle Essai de reconstitution en pâte à modeler effectué le 22 décembre 70 de pantoufles dont se servait Christian Boltanski en 48.
On ne pourra pas faire toute la journée, hein, vous savez.
Non, mais qui est présenté sous un tableau
au réveil, là.
De Le Basque d'un un nu au réveil d'une femme qui se lève et on se dit elle va mettre les chaussons et tout est comme ça. Ensuite, on passe à la toilette qui est derrière un rideau, un paravent des IMSS. Il y a un miroir surréaliste. Voilà, c'est formidable et surtout on découvre plein de en photo. Ils ont une collection photo fabuleuse aussi. Moi j'ai découvert par exemple un photographe local qui s'appelle Ito Josué qui travaillait qui photographiait la Comédie de Saint-Étienne, ce que faisait Jean d'Asté à la Comédie de Saint-Étienne, et le public, ce public derrière lequel tous les théâtres courent aujourd'hui, les théâtres subventionnés courent aujourd'hui, et on voit les mineurs, qui étaient le public de Jean d'Asté. Enfin, voilà. C'est vraiment une histoire fabuleuse qu'elle nous raconte, des collections à découvrir. Surtout, c'est jusqu'au 22 décembre, donc il ne faut pas...
Septembre. Ça a commencé en décembre.
Il faut aller la voir, cette exposition.
24
heures. Je ne sais pas si certains l'ont vu, mais...
24 heures de la vie d'une femme, c'est au Musée d'art moderne et contemporain Saint-Étienne Métropole. C'est ça le vrai nom.
C'est ça.
Aurélie Volz, qui en est la directrice générale et la commissaire.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Le dernier sujet de cette dispute art plastique, ce sont des retrouvailles. Celles que nous faisons ici avec Viviane Mayer, dont nous avions déjà parlé en 2013. Pour rappel, tout commence en 2007. Je vous raconte un peu l'histoire. Le jeune homme qui veut écrire un livre sur le quartier de Portage Park, à Chicago, j'essaye de faire l'accent comme Yasmine Youssi. Il cherche des photos pour l'illustrer.
Chicago.
Voilà, ça commence. mais ça, c'est un autre accent. C'est comme ça qu'il tombe sur un autre photo, en tout cas, ce jeune homme mis aux enchères. Il n'y a pas de photo de Portage Park, mais bon, c'est pas grave. John Malouf, c'est comme ça qu'il s'appelle, s'enthousiasme pour ses clichés, il va mener l'enquête, il va découvrir que l'auteur de ces photographies, c'est Viviane Mayer, qui est morte avant cela, avant d'être reconnue donc comme photographe, qui a emporté ses secrets avec elle. Il y a plusieurs hypothèses sur son goût pour la photographie, bref. Là, on va parler de cette nouvelle exposition, parce qu'il y a 6 ans déjà, on s'était demandé pourquoi sur cette immense quantité de clichés, on en avait vu une si petite partie. Alors peut-être que ça va être un feuilleton, mais en tout cas, voici maintenant des images en couleur. La batterie, Stéphane Correa, pour parler de Viviane Mayer. Color work, bon, le travail en couleur, quoi, on peut le dire en français.
Effectivement, c'est la 3e exposition, je crois, parisienne de Viviane Mayer, et la 1ère avec les photographies en couleur. Pourtant, c'est assez présent dans son corpus, puisqu'il y aurait le tiers des images qui seraient des images couleur, m'a dit la directrice de la galerie, qui a priori s'y connaît. Vous l'avez dit un petit peu, Arnaud, effectivement, Viviane Mayer, c'est la Mary Poppins de la photographie. Hein.
C'était pas dit ça comme ça, mais pourquoi pas.
Elle est franco-américaine d'origine,
nounou,
elle a été
quoi.
Gouvernante et nourrice à domicile. Non, mais ce qui me fait dire Mary Poppins, c'est pas uniquement la punchline, c'est parce que j'ai vu qu'à sa mort, les 3 frères dont elle s'était occupée principalement et qui se sont à leur tour occupés d'elle, ont publié une annonce pour annoncer son décès dans laquelle ils ont la qualifié ainsi. Cet esprit libre apporta une touche de magie dans notre vie et dans celle de tous ceux qui l'ont connu. Critique de film et photographe extraordinaire, une personne vraiment unique qui nous manquera énormément.
Bon,
donc,
c'est beau.
Ça, c'est le côté Mary Poppins de la chose. Effectivement, ce soir, vous l'avez sans doute fait exprès, bien sûr, Arnaud, c'était une dispute très pratique amateur. Je dirais dans le bon sens et le plus noble du terme, puisque on l'a pas dit tout à l'heure, mais Luigi Ghiri aurait voulu être architecte, mais venant d'un milieu très modeste, il est devenu géomètre. Et Viviane Meyer, un peu de la même manière, n'avait pas de formation, ne savait pas vraiment que faire pour vivre. Elle est devenue nourrice, qui n'était pas une vocation a priori, et elle a passé tout son temps avec la complicité des enfants dont elle s'occupait à prendre des photos
dans la rue.
C'est une photographe de rue, exactement. Et comme vous l'avez dit, dont on a découvert le travail de manière posthume, rien ne prouve qu'elle est... Alors, elle a fait quelques tirages, surtout à une période de sa vie où elle avait une salle de bain personnelle qu'elle a pu transformer en chambre noire. Mais sinon, la plupart effectivement, des images, elle ne les a même jamais vues, ce qui la rapproche un petit peu de l'art brut. C'est un art en grande partie sans destinataire, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas pu parler de son travail. Et elle avait une conscience de la qualité quand même de ses qualités de photographe. Il y a quelques lettres où elle en témoigne, mais enfin, elle n'a jamais montré vraiment ses photos à quiconque, elle n'en a jamais parlé avec quiconque, elle se tenait au courant de l'évolution de la photographie, et de fait, je trouve que son travail vaut plus par le fait qu'il était caché, que c'est un travail d'une femme, et d'une femme empêchée, je dirais, d'une certaine manière, que par... disons, il ne bouleverse pas l'histoire de la photographie, quand même. Elle rejoint une cohorte de photographes de rue très doués, elle est très bon niveau, mais à mon sens, elle ne révolutionne rien. Alors, qu'apporte la couleur ? En réalité, l'exposition est quand même en deux salles. Il y a une salle couleur, une salle noir et blanc, là aussi avec les fondamentaux de Viviane Meyer. Les images en couleur qui sont exposées ont été prises entre la fin des années 50 et le milieu des années 70. On retrouve les obsessions habituelles de Viviane Meyer, et notamment ce paradoxe pour une photographe qui était invisible, d'ailleurs, comme l'a qualifié Joël Meyerowitz, c'est qu'elle multiplie des autoportraits. Elle ne cesse de se montrer, mais des autoportraits comme à distance, dans un jeu de cache-cache avec l'objectif. Elle apparaît soit sous forme d'ombre, de lignes, de silhouettes, soit, et majoritairement même, c'est son reflet, ses reflets, soit de son visage, soit de son corps entier dans des miroirs, des vitrines. Mais finalement, dans toutes les surfaces réfléchissantes, là on voit un plat en argent, très belle image, une porte en inox, un grille-pain dans un magasin, un rétroviseur, y compris même quand elle est en train de se faire couper les cheveux. Alors, donc, qu'apporte la couleur ? La couleur, je trouve...
Eh bien, je vais le demander à Corinne Rondeau.
Très bien. Corinne le dira bien mieux que moi.
Non, parce que vous préciserez votre pensée tout à l'heure, mais je fais varier les paroles ici. Corinne Rondeau, Viviane Meyer, qu'apporte la couleur ? Ou qu'apporte Viviane Meyer ?
La couleur apporte simplement qu'elle sait repérer, là encore, là où ça joue dans l'image. Parce qu'il y en a qui pourraient faire simplement la photographie parce que c'est en couleur et densifier les couleurs. En plus, on voit bien, puisqu'elle n'a jamais rien tiré en termes de couleur, de toute façon, là c'est clair, elle devait tirer du noir et blanc mais pas de la couleur. Donc elle a un sens de la couleur et des contrastes. Je veux dire, il y a un portrait d'une vieille femme habillée en rouge, elle tourne la tête, il y a deux bandes derrière elle, blanche et orange. Il y a deux jambes, il y en a une, la personne a un bandage, il y a un léger talon vert à la jambe du bandage, et à côté, elle a une chaussure rouge. Et donc, on voit qu'elle s'amuse. Il y en a une qui est encore plus subtile que celle-ci, que ces deux paires. Voilà. Vous avez au premier plan des ballons, pastels. Vous avez derrière un personnage qui pourrait être un autre ballon, genre on ne sait pas dans quoi il est. Et en fait, ça a l'air d'être un camp de forain, enfin, on ne sait pas trop. Et derrière, vous avez juste une bordure verticale et horizontale, où il y a un rose pastel qui revient. Donc on voit bien qu'elle cadre son image avec la couleur. Mmh. Et donc elle a un grand sens de la couleur, comme elle a un très grand sens du cadrage, avec les ombres en noir et blanc. Mmh. Il y en a une là, de l'autre côté que moi je trouve absolument extraordinaire. D'ailleurs, quand on la dessine, on voit le travail qu'elle met sur la perspective et l'ombre. C'est son ombre avec une jetée vers l'horizon et la mer. Il y a trois silhouettes au fond noir. Vous avez un mur sur la droite, la mer à gauche, et au milieu, vous avez une ligne noire et une grande flaque qui est noire aussi. Et donc, il y a l'ombre, la flaque et le mur. Mais dans l'image, c'est impeccable. Donc, c'est pas du tout joué à ça. Ce qui est assez merveilleux, je trouve, entre ces reflets et ces ombres, que ce soit en couleur ou... Parce que c'est ça, la permanence, c'est elle. La permanence, c'est comment être dans un monde où personne ne la voit. Et en même temps, quand on voit... Alors là, il n'y en a pas dans la série, mais il y a des séries de portraits qu'elle fait dans la rue. Comme elle est grande et qu'elle a une tête pas très avenante, il y a des regards genre, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là ? Et elle a un humour de dingue. Il y a une photo avec un fessier sur un banc de dos. Bon, voilà. Ou alors, il y a une ombre sur un fessier. Enfin, je crois qu'elle est dans un autre catalogue. Je ne suis pas sûre qu'elle soit dans la... Je regarderai, mais je laisse la parole.
Ah, Yasmine aussi.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Stéphane.
Un animal est rentré dans le studio. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle.
Un animal japonais.
Un fantôme.
Alors, d'abord, on a fait... pour moi, il y a vraiment une œuvre. Hein. Pas une œuvre d'amateur, mais vraiment une œuvre de photographe. Je trouve qu'elle fait le lien très bien et dans sa photographie...
On n'a pas dit le contraire. Hein.
En noir et blanc, alors j'ai du mal à comprendre. Je trouve qu'elle fait le lien entre la photographie humaniste... Pardon ?
C'est comme Guiri.
Oui, c'est comme Guiri, oui. Écoutez,
pardon, je
peut,
vous taquine, hein. Yasmine.
Elle fait le lien entre la photographie humaniste européenne, la street photography américaine...
La street
puis,
photographie,
la
le traduire
photographie
parce que...
américaine, et puis la photographie subjective des Winogrand, des Diane Arbus. Je trouve qu'elle est vraiment à la hauteur d'un Winogrand et surtout en couleur. On a fait des recherches dernièrement, enfin, toutes ces archives ont été dépouillées, c'était plusieurs caisses. Je crois qu'il y a une biographie qui est sortie aux États-Unis et d'après ce que m'a dit la galeriste des douches, elle devrait bientôt sortir en France. Je crois que c'est Anne Marx, je crois, qui a fait la biographie, qui dit qu'en fait, Viviane Meyer travaillait aussi, c'est-à-dire qu'elle répondait à des commandes de journaux à New York quand elle part à New York, elle reste quelques années à New York avant d'aller à Chicago et de travailler pour où entre deux gardes d'enfants, elle fait des photos qu'elle vend aux journaux et elle répond à des commandes. Elle travaille aussi comme photographe pour les familles et se fait payer pour ça. Donc elle a grandi aussi à côté d'une photographe, c'est-à-dire qu'il y avait une Jeanne Bertrand.
Oui,
si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça.
L'amie de la mère de Viviane.
L'amie de sa mère qui était photographe, qui était une femme assez libre et qui vivait de sa photographie, qui avait son propre studio, qui habitait chez elle. Qui habitait avec elle, qui est revenue en France avec elle, voilà. Et quand elle a hérité, elle a pu s'acheter cet appareil. Et chez les Ginsberg, elle avait... C'était pas que dans sa salle de bain, d'après ce que j'ai compris, elle avait vraiment un... Donc la photographie, c'était pas qu'un passe-temps, quoi.
Ah, mais personne n'a dit ça, hein.
Sûrement pas.
On a dit que c'était une œuvre, mais on n'a pas dit que c'était un passe-temps.
Stéphane, elle était très au courant, et les livres qu'elle avait achetés en témoignent de tout ce qu'elle a... de tout ce qui se faisait en photo à ce moment-là. Je trouve que son travail en couleur est d'une force, vous voyez, c'est presque du Winogrand en couleur, quoi. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, et il y a une force là-dedans, effectivement, de toujours choper l'accident de la couleur dans l'espace, dans l'environnement, que ça
elle
soit...
Elle a des motifs quand même, les fleurs, les chapeaux.
Alors, d'un coup, on a une dame qui passe avec, qui passe avec des fleurs sur, voilà, des fleurs sur la tête.
Il y a la Joconde.
C'est pas non plus que de l'instant décisif. Elle fait des mises en scène. C'est-à-dire que, par exemple, elle photographie des fleurs au pied d'un réverbère, et puis là, il y a un petit miroir et on voit son œil. Et alors, pour moi, son travail le plus génial, c'est vraiment les autoportraits, dans lesquels elle n'apparaît presque jamais. Et effectivement, comme vous le disiez, Stéphane, cet autoportrait en noir et blanc sur un plateau en argent, dans des miroirs grillagés. Enfin, il y a vraiment... où elle n'apparaît jamais, jamais. Pour moi, c'est une œuvre qui tient en soi. Maintenant, il y a effectivement la question du marché, c'est-à-dire que ces photos aujourd'hui sont des tirages posthumes, donc ils ne valent rien au regard du marché. Ils ne valent rien, puisque ce qui fait la valeur d'une photo, c'est les vintage. Les vintage, pour l'instant, il devrait y en avoir 2000. C'est eux qui ont de la valeur. Mais je crois que les tirages ne sont même pas. Je crois que les tirages sont pas géniaux de ces vintage-là. Voilà. Mais en tout cas, ça n'a peut-être pas de valeur pour le marché, mais les découvrir...
Ça a la valeur pour nous qui regardons.
Pour moi, ça a une très très grande valeur.
Stéphane Coria ?
Oui, alors donc qu'apporte concrètement la couleur ? Bah, d'abord, effectivement, c'est une coloriste.
C'est beau.
Ouais. C'est un peu redondant de le dire, mais
c'est juste.
Corinne l'a dit, hein, le rouge, le rose, ouais. Fuchsia, ça c'est très fort. Le jaune. Alors ça apporte aussi, je trouve, une note d'humour encore plus grande que dans le noir et blanc. Il y a même un sens de l'absurde, parfois du comique. Il y a une photo, on dirait une photo d'Erwin Wurm, avec un homme qui est à moitié englouti dans une haie. On dirait une One Minute Sculpture d'Erwin Wurm. Parfois, on pense même à Martine Parr, notamment la Mona Lisa au Bigoudi. Et en plus, elle s'avère extrêmement politique. Ce qui m'a frappé aussi, c'est son habileté pour se fondre dans tous les milieux. On voit que toutes les couches de la société, toutes les couleurs de peau. Et là, elle prend une position très nette. Son regard est toujours cruel pour les riches, sophistiqués. On a parlé des chapeaux, des chaussures. Et en revanche, elle magnifie les laissés pour compte auxquels manifestement elle s'identifie. Des sans-abri, des miséreux, noirs ou blancs, dont elle se sent manifestement très proche.
Vous voulez dire un dernier mot, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Corinne Rondeau.
Non, il y a très peu en fait, de laissés pour compte dans l'exposition.
Oui, parce qu'elle ne baladait pas les enfants dans les quartiers les plus mal famés non plus.
Oui,
non, mais il y a
des photos d'elle qui existent, où elle a vraiment saisi la pauvreté extrême.
Oui, absolument.
Mais il y en a très peu, là. Elles sont pas manifestement.
Il y en a, Corinne.
Très peu.
Non, il y en a.
Mais c'est la
vérité. Il y en a, Corinne.
Ouais, d'accord.
Il y en a,
Stéphane.
Et bon, on s'arrête là-dessus.
Non, il y en a.
Oui. The Color Work de Viviane Mayer jusqu'au 30 mars à Les Douches, la galerie. C'est moche à dire, mais c'est comme ça qu'on dit. La monographie en anglais, Viviane Mayer, The Color Work, chez Harper Design. Alors pour une fois que je ne dis pas que les expositions dans les galeries sont gratuites, évidemment on me le fait remarquer désobligeamment, Stéphane Corriard, je le dis à chaque fois, on vous parle toujours d'ailleurs des expositions en galerie, parce que c'est un accès libre à l'art de son temps. Bien, c'est l'heure du jeu de la dispute. Sarah Dion nous a rejoint dans cette ambiance un peu délétère ce soir, dissipée en tout cas. Le jeu de la dispute, la question d'hier et sa réponse, Sarah ?
La question d'hier était: quel critique et humoriste a inventé le terme impressionniste alors qu'il tournait en dérision un tableau de Monet ?
Stéphane Corriard, je crois que c'était.
C'est pas Stéphane Corriard, c'est Louis Leroy.
Ce soir, des invitations à gagner pour le film La chute de l'Empire américain de Denis Arcand qui est sorti aujourd'hui. La question, Sarah ?
Pour lequel de ces films Denis Arcand a-t-il obtenu un Oscar ?
Votre réponse à envoyer avec vos coordonnées postales, bien sûr, à ce courriel auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, ainsi sur lequel vous pouvez nous réécouter et nous podcaster. Demain, à 19h, une dispute consacrée à la littérature avec Lucille Comeau, Grégoire Leménager et Laurent Nunez. Nous parlerons de L'Indésirable de Louis Guillou, d'Anne Sarah K de Mathieu Simonet. Il y aura un coup de cœur de Laurent Nunez pour Pouvoir de l'imposture de Maxime Decoux et un petit salon de Lucille Comeau qui sera consacré aux lectures enfantines.